Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, le numéro 212, pour m'accompagner cette semaine. L'équipe que j'ai l'habitude de surnommer la technocratie Dunk Hebdo fait son retour. Technocratie tout d'abord composée de Madiane. Ça va Madiane?
Ça va très bien et vous?
Moins bien. Et puis composée de Tom. Ça va Tom?
Ça va, en santé.
Ah oui, donc vous avez décidé de vous moquer de moi dès le début et de... Je vais vous moquer de ma migraine affreuse qui m'empêche pas de... Ça sera mon migraine podcast. Hein.
J'ai trop d'highlights, trop d'highlights, Ben. Trop d'highlights des équipes game. Dont on va parler.
Ah, c'est ça. J'avais écrit une vanne, j'ai plus mal à la tête qu'en regardant un Knicks-Cleveland en février. Donc c'est pour vous donner une idée du sur le niveau sur lequel on se situe, tu vois.
Franchement, ça passe bien.
Ah bah c'est génial. Puis je tiens à signaler à Madiane, j'ai déjà eu mon flou podcast. Hein, génial, un bonheur. On ferme la parenthèse. Cette semaine, on aurait pu discuter ensemble des craintes exprimées par les joueurs quant à la reprise. On sait que c'est un sujet chaud, mais on va attendre de notre côté d'avoir un peu plus d'éléments à la place. Tom l'a un peu dit. On va discuter des équipes pour qui la saison est d'ores et déjà terminée. Les 8 franchises les moins bien classées de la NBA qui n'iront pas a priori, hein, parce qu'apparemment tout peut changer, qui n'iront pas à Orlando. Pour chacune d'entre elles, on va tirer un petit bilan et se projeter vers l'avenir. Avant ça, comme d'habitude, petit rappel hebdomadaire, on vous invite à nous suivre sur Twitter et sur les plateformes de podcast où vous écoutez notre émission. Si c'est Apple Podcast d'ailleurs, hein, on vous invite toujours à nous mettre 5 petites étoiles, ça nous aide à être mieux classés dans les classements, etc. Et puis nous, on se retrouve dans quelques secondes pour discuter des 8 cancres de la NBA. Golden State, Cleveland, Minnesota, Atlanta, Détroit, New York, Chicago et Charlotte. 8 équipes donc toutes éliminées de la course aux playoffs. 8 équipes qui n'iront pas à Orlando. D'où le besoin de tirer le bilan pour chacune de ces équipes. Alors, pour chacune de ces équipes, ça va être assez simple. On a une question directrice, bien souvent imposée par moi-même, et ça va un petit peu encadrer notre discussion sur chacune des équipes. Parfois les questions sont, vu qu'elles viennent de moi, un petit peu et volontairement
dirigées, piquantes,
voilà, on peut dire ça comme ça. On va débuter, qui l'eût cru, par les Warriors, pire bilan de la NBA après une saison post-départ de Kevin Durant extrêmement particulière, on l'a un peu tous vécu, saison blanche pour... Tristan Thompson, qu'est-ce qui se passe? Klay Thompson, vous voyez les premiers dégâts de Damian. Pour Klay Thompson, un Stephen Curry largement absent. Je vais commencer par toi, Tom, d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que je commence jamais par toi. Les Warriors sont-ils les grands gagnants du format actuel comme il a été réfléchi dans cette bulle à Orlando?
Alors, je dirais oui, si on prend les événements, si on prend pas les événements hors basket. C'est-à-dire que c'est une équipe qui était sur une fin de cycle avec 5 finales consécutives et qui avait besoin de trouver des nouveaux talents et des ressources. En faisant une saison compliquée, on peut dire un tanking un peu déguisé, dans le sens où les meilleurs joueurs n'ont pas joué énormément de matchs, soit pour raison de blessures comme Steph Curry et Klay Thompson, ou simplement pour se ménager et puis recharger les batteries comme peut-être Draymond Green, c'est une équipe qui a réussi avec le transfert de Russell à récupérer plusieurs assets cette saison pour avoir plus d'assets au moment où elle va débuter une saison pour laquelle elle sera de nouveau potentiellement un candidat au titre. Alors, pourquoi je dis si on occulte les raisons hors basket? puisque d'un point de vue financier, c'est une franchise qui a deux éléments qu'elle pourra pas forcément utiliser, c'est-à-dire son haut choix de draft qui va quand même coûter 10 millions pour la première saison, et aussi la trade exception qu'ils ont générée dans le cadre du transfert d'André Iguodala, qui est de 17 millions. Donc du coup, vu que le salary cap sera moindre et qu'il y aura peut-être moins d'argent dans les caisses à dépenser, peut-être que ce sont deux choses qu'ils pourront pas forcément utiliser comme des assets pour se renforcer l'année prochaine. Donc globalement, ils sont gagnants, mais ils auraient pu l'être encore plus si jamais on n'avait pas eu cette crise entre guillemets économique sur la NBA aujourd'hui.
Madiane, ton avis, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette saison, comme on l'a dit, extrêmement particulière des Warriors, et puis l'avenir, vers quel horizon on va du côté de Golden State? Je sais qu'avant la saison, tu étais parmi ceux dans nos previews qui avaient annoncé Golden State le plus haut. Tu étais parmi ceux qui croyaient vraiment en cette équipe alors qu'il y avait un petit pessimisme latent, il faut l'avouer.
Oui, clairement. Oui, objectif accompli, et surtout, je pense que cette fin de saison, par rapport à est-ce qu'ils sont les grands gagnants, ça leur évite de se poser des questions autour de Stephen Curry, faut-il le faire jouer, pas le faire jouer, voilà, il ne joue plus, donc au moins, ils ont réglé ces petites questions qui auraient pu quand même leur provoquer quelques maux de crâne, et peut-être leur faire gagner des matchs qui auraient pu les placer un peu moins bien à la loterie. Clairement, c'est une saison assez inattendue du côté de Golden State parce que justement, blessure de Curry, contexte finalement beaucoup plus difficile que prévu, ça match pas forcément avec D'Angelo Russell et finalement il se fait trader. Ils ont maintenant un haut shot draft. Effectivement, est-ce qu'ils vont être capables finalement de trader ce haut choix de draft, est-ce qu'ils vont drafter avec, ça va être toute la question pour la suite. En tout cas, là, ils sécurisent leur tanking, entre guillemets. Ils ont le plus gros pick de la loterie, et c'est quelque chose sur lequel personne n'aurait pu parier en ce début de saison. Après, quid de la suite. Et là, ça va être très intéressant de les voir évoluer durant cette intersaison.
Après, il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans la saison des Warriors, c'est quand même... Ils ont quand même pu évaluer leurs jeunes joueurs, dont Eric Pascal, du coup, qui sont draftés. Enfin, moi, là où c'est rassurant, c'est qu'en fait, quand tu regardes le scénario idéal pour les Warriors, s'ils faisaient pas les playoffs, c'était d'avoir le plus haut pourcentage de chances d'avoir le premier choix, et c'est ce qu'ils ont avec l'arrêt de la saison. Donc, globalement, ils sont gagnants, quoi.
Oui, clairement. Et là-dessus, je trouve que leur saison est réussie. D'un point de vue tanking, parce que ils ont développé et ça n'a pas été du tanking dans le vide où il n'y a rien qui se passe sur le terrain. Avoir joué, c'était pas si nul. Il y avait des choses qui se passaient avec le ballon. On voyait quand même que les fondamentaux de jeu, en quelque sorte, de l'équipe, ils restaient en place. Alors, certes, avec pas beaucoup de talent, mais ça jouait bien. Et ça te permet d'incorporer d'éventuels futurs roleplayers qui te serviront forcément. Et c'est peut-être là où ils ont eu des soucis ces dernières années dans leur quête du titre. C'est qu'ils s'étaient beaucoup affaiblis sur leurs roleplayers. Et peut-être que cette saison leur aura permis de faire monter un peu deux, trois joueurs qui pourront s'avérer intéressants pour la suite.
Rapidement, comme un petit mot de conclusion. Alors, on sait que... Nos avis sur les Warriors ont peut-être été un petit peu gelés, je dirais, à cause d'une saison extrêmement particulière. En un mot, Tom, Madiane, est-ce que votre niveau de confiance vis-à-vis des Warriors après cette saison a largement baissé par rapport à ce qui pouvait être en début de saison, ou alors reste à peu près le même? C'est-à-dire que c'est une équipe qui, une fois en bonne santé, sera... Une équipe, une franchise avec laquelle il faudra compter à l'Ouest.
Moi, je dirais que le mien a baissé, en un mot.
Oui, pareil. Pour moi, ça a baissé. Disons qu'il y a plus d'interrogations à la fin de cette saison qu'à la fin de la saison passée.
Ok.
Donc, il faudra voir le retour.
C'est sans spoiler, je pense qu'on aura un épisode consacré aux Warriors d'ici à quelques semaines, parce que c'est clairement une équipe sur laquelle, et je pense que c'est bien résumé, Madiane, il y a beaucoup d'interrogations. Une équipe sur laquelle j'aimerais qu'on n'ait pas de podcast dans les semaines qui suivent, c'est Cleveland, les Cavaliers. 29e bilan NBA, et j'avais annoncé quelques questions piquantes. Notre ligne directrice pour ce petit bilan des Cavaliers, c'est une année pour rien. Madiane, je vais te lancer. Cet exercice 2019-2020 des Cavaliers, est-ce que c'est une année pour rien? Est-ce que deux années après le départ de LeBron, on y voit toujours aussi peu clair dans le plan Cleveland?
Alors, sans y voir pas très clair, déjà, ils ont quand même renvoyé leur coach. Donc, ils ont quand même changé de braquet au milieu de la saison. Ils ont acquis, à la surprise générale, un pivot. C'est un contre un second tour, c'est ça, qu'ils récupèrent notre ami...
C'est Brandon Knight, John Henson et un second choix.
En tout cas, pour rien, non, ils sont à un autre stade. Après, moi, je pense qu'ils ont des choses à clarifier dans leur roster qui ne sont pas encore claires. Est-ce que Sexton, c'est un sixième homme ou pas, par exemple? Est-ce qu'ils veulent en faire un sixième homme? C'est une question. Quid, par exemple, de Cedi Osman? On en attendait beaucoup et ça n'a pas été non plus la panacée. Darius Garland a quand même du mal à s'y faire. Enfin, je trouve que sa saison est beaucoup plus décevante que ce que j'aurais pu attendre de lui. J'avais un peu plus d'espoir. Et moi, j'ai l'impression qu'il a des soucis avec le jeu physique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et le cercle. Oui, le cercle et lui, ils sont pas aimés. Ses finitions en cercle, c'est terrible pour lui. Hein. Clairement. Et... Voilà, donc ils ont avancé un peu. Après, moi, je pense que ça manque un peu de, disons, d'un prospect qui peut te faire dire que tu peux construire autour de lui. Et du coup, bah, ça patauge un peu et on voit pas bien où est-ce qu'ils vont naviguer. Et surtout, j'ai pas l'impression qu'ils vont pouvoir acquérir ce talent cet été.
Tom, même analyse. Est-ce que du côté Cleveland, la pièce centrale manque toujours et du coup c'est un peu difficile de lire clair dans le jeu des Cavs?
Ben, je trouve que la pièce centrale, elle manque. Hein. Ben, de toute façon, on le savait, à partir du moment où voilà, tes principaux talents, entre guillemets, c'était Colin Sexton et Darius Garland, tu savais bien que globalement, tu n'avais pas vraiment des numéros 1, tout simplement parce que ben Colin Sexton, c'est un joueur qui génère très peu de jeux autour de lui. Alors moi, je trouve que c'est ce qu'il a montré en fin de saison était assez encourageant. Il commence à comprendre le jeu, il arrive à développer d'autres automatismes, il s'est développé un petit peu plus sur la passe, même si ses qualités de score... Moi typiquement, en fait, Colin Sexton, je le vois évoluer un peu comme un joueur à la Jimmy Butler, mais à la main. C'est-à-dire que il sera pas forcément dans le gratin, dans l'élite ou quoi que ce soit, mais c'est un joueur qui joue plus haut. Je pense que c'est un joueur qui jouera plus haut que son niveau de talent, simplement parce qu'il a du caractère. Après, c'est aussi une problématique, et ça on le voit défensivement avec lui, c'est que c'est un joueur de hustle, et qui dit joueur de hustle dit que tu fais du hustle parce que tu n'es pas forcément bien placé. Donc ça, c'est des trucs qu'il faudra qu'il corrige de ce côté-là. Mais globalement, je trouve que cette équipe des Cavs, elle a montré des choses, il y a eu des choses assez inquiétantes, notamment avec le coach... Kevin Love qui pète un cap sur le terrain, des choses comme ça. Mais après, elle aura appris plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la Ligue considère Kevin Love comme une valeur négative, puisqu'ils ont essayé de l'échanger, mais ils n'ont pas trouvé preneur. Que aussi, ils ont réussi à récupérer André Drummond, contre très peu. Ça veut dire aussi oui. Que la ligue ne valorise pas les pivots. Qu'est-ce que ça dit du coup de comment il s'appelle de Larry Nance? Qu'est-ce que ça dit de Tristan Thompson et des offres que lui va avoir sur le marché? Et qu'est-ce que ça dit aussi de Zizic qu'ils ont aussi sous contrat? Ensuite, il y a aussi l'éclosion du coup de Porter Jr. On peut saluer Alan qui le suivait depuis longtemps. Bon, on voit que Junior, il a montré des choses très intéressantes avec cette équipe des Cavs et qu'il a montré que lui peut-être pouvait être un joueur qui pouvait faire partie du futur des Cavs. Et il y a aussi du coup l'acquisition de Dante Exum. Donc il y a eu quand même, ils ont quand même fait un bon travail d'identification. Alors certes, ça n'a pas forcément payé en termes de bilan, mais je trouve qu'en fait la saison elle est pas inutile parce que il y a pas mal de choses qu'ils ont appris qui fonctionnaient pas. Enfin, il y a pas mal de choses qui fonctionnent pas et ils ont vu ce qui fonctionne pas.
Alors, je vais faire mon rôle de petit Larousse illustré, seul joueur d'effort. Alors, on va traduire ça dans un... Mais on voit ce que tu voulais dire, Tom. Non, ça c'est pour parce qu'on dit souvent qu'on est voilà, on utilise trop souvent la langue de Shakespeare.
C'est vrai.
Donc joueur d'effort, même si c'est une expression qui est absolument horrible, joueur d'effort. Passons. Donc vis-à-vis de Cleveland, votre conclusion, si je la comprends bien, c'est on a appris des choses sur l'effectif actuel. Et ça, je l'entends, mais bien sûr, parce que j'essaye vraiment de vous pousser à dire des choses polémiques, hein, je suis dans First Take. Selon vous, est-ce qu'on n'est quand même pas sur deux saisons depuis le... Globalement, ça fait deux saisons que LeBron est parti, on a quand même avancé à pas de loup dans la reconstruction. C'est-à-dire que deux saisons après ce départ, il n'y a toujours pas de joueur, comment je dirais... t'as parlé de Porter Junior, Tom, mais... Est-ce que parmi l'effectif actuel, il y a un joueur qui jouera un rôle majeur dans la prochaine
bonne équipe des Cavs qui ira en playoff?
Ouais, je pense pas qu'on en soit sûr. Et c'est assez pauvre du coup comme bilan. Sachant qu'en plus, il y a toujours les problématiques, tu l'as dit, Kevin Love, quid de Drummond et tous les anciens du run précédent.
Mais même après, moi, je suis limite plus inquiet pour Garland, en fait, comme tu l'as dit très bien, Madiane. Moi, j'étais très surpris, en fait, par le fait qu'il n'aille pas au cercle. Comme tu as dit, tu sens que au niveau des contacts physiques, il a eu pas mal de mal à s'adapter. Alors, peut-être que c'est parce qu'il avait été blessé aussi la saison d'avant, donc il faut quand même qu'il retrouve ses jambes, entre guillemets. Mais moi, j'étais choqué par le fait qu'il fuit littéralement le contact, quoi, et limite... C'est le gars qui va devenir, enfin pas devenir, mais dans la façon dont il joue, t'as l'impression plutôt que c'est un mec qui va plus devenir comme un gars à la CJ McCollum, où à partir du moment où il y aura peut-être plus de contacts, il va développer un flotteur ou un shoot à mi-distance et il ira pas forcément au cercle pour éviter les finitions difficiles. Contrairement à Sexton qui fonce dedans.
Oui, mais ça peut être son caractère. Hein. En tout cas, ça se voit dans sa façon de jouer. Et ça se voit en plus dans sa réussite au tir près du cercle, où normalement c'est là où tu es censé quand même plutôt exceller. Et ça a pas l'air d'être. Enfin, c'est pas son cas, clairement. Donc oui, on a appris des choses sur Garland, ce qui rend en fait le débat entre lui et Sexton. Est-ce que tu essayes de faire de Sexton ton titulaire? Est-ce que tu te dis que Sexton c'est plutôt ton sixième homme et tu gardes Garland en meneur qui débute les matchs? Il y a pas mal de questions. Moi, ce qui me fait peur en fait sur cette équipe, c'est qu'il risque d'être trop fort l'an prochain. Et du coup, c'est ce que je dis, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'avoir un talent sur lequel on dit waouh, c'est lui et je peux construire autour de lui. Et ils ne vont pas pouvoir l'acquérir prochainement, sauf coup de miracle. En tout cas, moi, l'an prochain, je les vois plus forts que cette année, clairement plus forts. Et c'est inquiétant, du coup, pour eux, parce que c'est une reconstruction, mais finalement, ça va se baser sur du Drummond ou du Kevin Love du Sexton qui vont t'apporter un certain niveau quand même à l'Est qui feront que tu seras un poil trop fort par rapport à d'autres équipes. Et du coup, tu n'auras pas l'occasion de récupérer un très bon talent à la draft.
Bah après, ils ont beaucoup de marge, hein. Ils sont derniers à l'Est. Hein.
C'est vrai qu'à la grande surprise générale, ils sont derniers à l'Est cette année.
Derrière
les Knicks. Hein.
Des équipes en plus qui, devant eux, elles pourront peut-être pourront franchir un palier encore plus important que Cleveland. Donc c'est aussi à noter. On retourne à l'ouest, avec une équipe dont on avait déjà parlé dans un épisode reconstruction. Donc cette fois-ci, on va quitter la planète reconstruction pour retourner sur la planète Terre avec les Minnesota Timberwolves, donc 28e bilan NBA. Question directrice, allez, je retourne vers toi, Tom. Est-ce que l'ajout de D'Angelo Russell, c'est assez pour la suite? Est-ce que c'est assez pour que cette équipe s'inscrive enfin parmi... Les bonnes équipes de l'Ouest, on va dire les candidats aux playoffs année après année à l'Ouest?
Moi, je pense que c'est pas assez pour l'instant. Alors, je pense que l'arrivée de D'Angelo Russell à Minnesota va lui faire plus de bien à lui que ça va faire de bien à la franchise et peut-être à Karl Anthony Towns, dans le sens où D'Angelo Russell, là, il sera dans les circonstances... entre guillemets, parfaite pour lui, pour pouvoir accéder, vu les types de joueurs qui vont jouer à côté de lui. Par contre, est-ce que ça va résulter à plus de victoires forcément pour le groupe? Non, puisque D'Angelo Russell, moi je le considère plus comme un élévateur de plancher qu'un élévateur de plafond. Et ce qui va se passer, c'est que vu que la marche est beaucoup plus haute à l'ouest, que l'équipe risque de stagner. Donc je pense que son ajout est une bonne chose pour l'équipe vu ce qu'ils avaient avant. Par contre, je trouve que c'est pas suffisant pour faire deux des contenders. Tu vois, par exemple, je les vois pas meilleurs que Phoenix l'an prochain. Par exemple.
Ça peut se comprendre et ça peut même se justifier. Déjà qu'ils ne sont pas meilleurs que Phoenix cette année, est-ce que la différence d'Angelo Russell pour toi, Madiane, est-ce que c'est ce qu'on attend du côté de Minnesota depuis l'arrivée de Karl Anthony Towns, c'est-à-dire son Robin, le Robin du Batman pour enfin s'installer comme une équipe sérieuse, on va dire, à l'Ouest.
Ah, ça va être compliqué quand même à l'Ouest, c'est ça le souci. Tu me dis, j'ai Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell dans une autre conférence, je dis oui, là ça va être compliqué, et surtout, il faut pas oublier qu'ils ont plus Andrew Wiggins, alors avec tous les défauts qu'a ce joueur, hein, et je comprends en fait le move de s'en séparer, par contre, ça veut quand même dire que face au monstre, disons, de l'Ouest... ça va être aussi plus compliqué pour eux de les jouer, et c'est pour ça que ça a bien marché, ça cliquait extrêmement bien parce qu'ils étaient quand même très haut avec Jimmy Butler, c'est qu'ils avaient de quoi répondre au talent qu'offre la densité à l'ouest, et ils l'ont plus. Donc effectivement, moi je suis pas optimiste pour eux. Après, par contre, question morale, et je pense que si tu te pars sur cette base et tu te dis bah les deux ils ont l'air quand même de bien s'entendre, et ça peut partir pour longtemps avec les deux, je pense qu'en fait ils repartent du bon pied, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de dire Andrew Wiggins c'est le futur. Non, le futur c'est Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell, pourquoi pas, mais du coup je pense qu'il leur faudra encore une année de transition pour vraiment faire quelque chose à partir de là. Je pense que l'an prochain c'est beaucoup trop tôt, il manque, on a deux pièces et le reste ça reste en chantier.
C'est ça, parce qu'avec Russell, en fait, ils ont fait le choix de s'équilibrer sur un déséquilibre, quoi. C'est-à-dire que tu sais qu'avec Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell, t'as limite aucune chance d'être dans le top 20 défensivement, à part si t'as de la chance sur les shoots extérieurs des adversaires. T'as aucune chance d'être dans le top 20 défensivement. Donc, du coup, faut que tu aies une attaque élite, quoi, et que tu sois dans le top 5, quoi. Mais est-ce que c'est possible d'être dans le top 5 offensivement quand tu vois les armes offensives qu'il y a dans la ligue aujourd'hui, avec une attaque basée sur Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell? Pour Towns, oui. Pour Russell, je suis un petit peu moins sûr.
Sachant que c'est une équipe sur laquelle on a déjà consacré un épisode récemment, on vous invite à aller l'écouter. On va passer rapidement. Dernière petite question sur Minnesota. Du coup, de ce que j'ai compris de vos discours, on n'est pas du côté des playoffs. On va se situer dans quelles eaux, du coup, d'après vous, sur Minnesota, même si on sait, surtout dans le contexte actuel, faire des pronostics, c'est extrêmement difficile, mais ça va encore se situer entre quoi? Entre... D'ailleurs, enfin, je dis entre eux, je peux même, je pense, inclure 15 dedans. C'est ça qui est assez terrifiant. Entre 15 et 10?
Ouais, enfin...
Ouais, ouais, c'est ouais. Ça.
Ouais, c'est là où je les vois, hein, parce que enfin quand tu regardes les autres équipes, toutes les autres équipes limite t'as un cas où tu peux te dire ok, cette équipe là elle peut faire les playoffs l'an prochain. Minnesota, je sais pas si tu peux te dire l'an prochain ils font les playoffs quand tu prends les équipes devant peut-être pas les Spurs, tu vois.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Peut-être Sacramento, Memphis, Portland, New Orleans, ces équipes là, en fait toutes ces équipes là peuvent avoir, et les Warriors, toutes ces équipes-là peuvent avoir des cas légitimes où tu peux te dire, ok, cette équipe-là peut arracher les playoffs. Minnesota, je vois pas en fait ce schéma-là. J'arrive pas à me dire ça.
À part les Spurs, ils passent devant qui? Dans les équipes qui leur sont devant, ils passent devant qui à part les Spurs? C'est ça le truc. Ou c'est... peut-être un OKC
qui régresse
et qui balance. Ouais, blessure de Chris Paul, il balance tant qu'il y a de la valeur des joueurs de l'effectif. Ok, mais à part ces deux cas de figure un peu extrêmes, ça va être difficile de passer devant les autres équipes.
Et après, on ne sait pas dans quel état on va retrouver Karl Anthony Towns. Hein. Karl Anthony Towns, on sait ce qui se passe dans le Minnesota en ce moment. Karl Anthony Towns qui a aussi perdu sa mère suite au coronavirus. Ben, on sait pas comme dans quel état d'esprit on va le retrouver l'an prochain.
Clairement.
C'est très juste. C'est d'ailleurs, oui, comme on en a pas parlé, mais c'est une équipe qui va jouer du point de vue symbolique beaucoup la saison prochaine également, et qui, d'un point de vue, si on retourne un peu au sportif, ça serait, même s'il y a eu des événements en leur défaveur, ça serait quand même un sacré constat d'échec, 6 ans après avoir drafté Towns, de se retrouver avec une équipe toujours dans les bas-fonds de la conférence Ouest. On retourne à l'Est, petite partie de ping-pong Est-Ouest. Vous inquiétez pas, ça s'arrête maintenant, puisqu'on va parler uniquement d'équipe de l'Est jusqu'à la fin. Avec une équipe, et je pense que de notre groupe d'équipes, et je peux parler au nom de tous, c'est celle dont on avait vraiment envie de parler, les Hawks d'Atlanta. Et la question, je pense, elle a découlé assez simplement, parce que on a tous eu ce constat-là. Une équipe qui avait une petite hype en début de saison, peut-être un peu moins chez nous, mais certes, une petite hype, certains les voyaient même proches des playoffs. En l'occurrence, ils en sont très loin, malgré quelques poussées de fièvre de Trae Young. Madian, pourquoi ça n'a pas marché les Hawks cette saison?
Je pense qu'on a été un peu embarqué chez ceux qui se sont, je m'inclus, mais j'étais pas forcément parti de ce club-là. La hype Trae Young, notamment avec la fin de saison dernière, où il avait été très bon sur la fin de saison, et du coup ça avait généré une petite hype. Certains les ont attendus un peu au tournant en début de saison en se disant hey, regardez ce qu'ils ont fait à le draft, parce que j'ai quand même trouvé, moi, post-draft de l'an passé, moi je trouvais qu'Atlanta avait fait plutôt un bon travail, et du coup ben, très vite il y a une hype qui s'emportait avec les premières victoires du début de saison. Mais en fait je pense qu'il ne faut pas oublier que l'équipe c'est des gamins, et c'est même des gamins aussi sur le banc. Clairement, et du coup, bah oui, bah Cameron Edge 20 ans, DeAndre Hunter 22 ans, John Collins 22 ans, en plus suspendu, Kevin Huerter 21 ans, enfin, c'est des gamins, tes meilleurs joueurs, ils sont très très jeunes, et ils n'avaient pas de meneur backup, alors maintenant ils ont Jeff Teague. Bon, d'ailleurs, va-t-il rester?
On sait ce que Ben pense de Jeff Teague.
À All-Star. All-Star devant l'éternel.
Que du bien, Tom. J'en pense que du bien.
Maintenant, ils ont rajouté Clint Capella. Il faudra voir comment ça va se passer avec Clint. Moi, j'aurais aimé les voir jouer un peu, parce que du coup, moi, je trouve qu'ils sont un peu perdants du fait que ça s'arrête, parce que on pourra pas voir du coup ce que ça peut donner du coup avec Clint Capella dès cette saison. Donc, il va falloir préparer la saison suivante. En tout cas, non, c'était trop jeune, pas de rotation, pas de banc, enfin, si tu dois compter sur tes jeunes pour te faire gagner des matchs, enfin, c'est compliqué, donc, non, enfin, finalement, ils ont été là où fallait s'attendre à les retrouver, aussi étonnant que cela puisse paraître.
T'as parlé, justement, d'Atlanta, à savoir que Lloyd Pierce et Atlanta font partie de ces franchises qui poussent le plus parmi les 8 cancres pour avoir une sorte de mini tournoi pour rejouer, parce que c'est vrai que pour eux c'est un sacré désavantage. Tom, je me tourne vers toi, je sais qu'avant d'enregistrer on a parlé un petit peu ensemble de ce qu'a Atlanta, et ce qui transpirait chez toi, c'est pas, d'ailleurs le mot n'est pas transpirer, ça doit plutôt parler de mon état actuel plutôt que du bon mot, chez toi, et on avait plutôt la sensation d'après ton analyse que c'était une équipe qui avait beaucoup parié sur son potentiel au détriment d'avoir des valeurs sûres.
C'est ça, c'est une équipe en fait clairement où t'avais pas assez de joueurs de plancher, hein. Puisque même le banc, c'était très jeune. À part, tu vois, les vétérans de cette équipe-là, ils ont quasiment pas joué, hein. Et c'est pour ça qu'on a vu, je pense, des actions correctives menées par Schlenk à la trade deadline pour récupérer un meneur backup en la personne de Jeff Teague. T'as Vince Carter qui était dans le lot, et après de récupérer des joueurs comme Deadmon, voilà, Clint Capella, tout ça. Puisque, en fait, ils se sont rendu compte que, en NBA, à l'aile, si t'as personne, tu vas te faire fracasser. Et Trae Young, il est bien gentil. Hein. Trae Young, il a énormément progressé quand tu compares ce qu'il a fait dans sa saison rookie et sa saison sophomore. Mais le reste de l'équipe, tu peux pas te ramener avec une bande d'ailiers de 18-20 ans face à des ailiers NBA. T'as pas de joueur de plancher, mais qu'est-ce qui va se passer? T'es bon jour, ton équipe va tenir la route et t'auras l'impression d'avoir le futur OKC, et tes mauvais jours, ben, tu vas te faire rouler dessus sur toute la ligue. par toute la ligue, tu vois. Et c'est ça la problématique d'Atlanta, c'est qu'ils n'ont pas considéré la valeur qui était d'avoir de bons joueurs de plancher. Et je pense que c'est aussi pour ça, parce que à partir du moment où t'as Trae Young qui se blesse, ben il y a plus rien. Et puis c'est une équipe qui a aussi connu pas mal de petits pépins entre guillemets, puisque certes t'as Trae Young qui s'est blessé quelque temps, t'as Huerter qui a eu un problème à l'épaule aussi pendant la saison, t'as Collins qui lui aussi a eu des problèmes durant la saison avec sa suspension. Et en fait, quand ces joueurs-là ne jouent pas, ça veut dire que c'est un mec qui a même pas le niveau de rotation qui doit rentrer dans le 5. Donc si un mec qui a pas le niveau de rotation doit rentrer dans le 5, ben le mec qui a le niveau rotation qui n'a pas le niveau rotation qui était sur le banc, ben il se fait remplacer par un mec qui n'a même pas le niveau NBA. Donc tu comprends bien que face au banc, ben, c'est surtout ça en fait, c'est la cascade. Quand tu perds un titulaire, certes, tu vas trouver un joueur qui remplace le titulaire, mais faut trouver le joueur de niveau qui va remplacer le mec qui remplace le titulaire. Et ça, Atlanta, il l'avait pas.
Pour les auditeurs qui nous découvrent, Tom, est-ce que tu peux définir en quelques mots ce qu'est un joueur de plancher ?
C'est-à-dire, c'est un joueur, tu sais exactement qui il est et ce qu'il fait. Et tu sais exactement ce qu'il va t'apporter. Alors oui, c'est pas le joueur qui va te permettre de battre le gratin de la ligue, mais c'est un joueur qui fait très peu d'erreurs et qui va te permettre d'avoir un niveau respectable quand il est sur le terrain.
Une valeur sûre en soi. C'est un joueur, c'est ça. Une valeur sûre.
Un gars là, Kyle Anderson.
Pour continuer sur les Hawks, de ce que je comprends de vos discours cette fois-ci, c'est une équipe qui, à la free agency, devrait plutôt s'éloigner de la draft et penser à acquérir des vétérans et à se renforcer à l'aile. Et là, peut-être que cette petite hype et ce fol espoir de playoff pourrait se concrétiser.
Ah, clairement. Moi, je pense que c'est une équipe qui a besoin de joueurs confirmés. Alors, pas forcément de vétérans qui ont, 15 ans dans la ligue, hein, mais c'est une équipe qui a besoin d'avoir des joueurs qui ont joué au moins une centaine de matchs déjà en NBA. 150, 200 matchs déjà en NBA. Donc, il va falloir trouver des joueurs où tu sais déjà ce qu'ils font pour pouvoir les incorporer dans ton système. Par exemple, tu vois, un gars comme Joe Harris, moi, ça me choquerait pas qu'il arrive aux Hawks, sachant que les Hawks, c'est une équipe c'est l'équipe qui a le plus de cap space cette saison. Plutôt qu'aller chercher... alors, s'ils peuvent récupérer Brandon Ingram et que les Pelicans ne matchent pas, c'est très bien, hein. Mais tu vois, trouver de bons joueurs de complément qui te permettent de ne pas sombrer. Tu vois, un meneur backup intéressant. Des choses comme ça. Quand Trae Young n'est pas sur le terrain, quelqu'un qui est capable de faire fonctionner. Tu vois, un Fred Van Vliet, des joueurs comme ça. Moi, ce sont des bons joueurs comme ça qu'ils ont besoin de trouver, moi, je trouve, à Atlanta. Et laisser grandir leurs jeunes talents.
Oui, clairement. Enfin, un environnement avec que des jeunes joueurs très inexpérimentés, en fait, ça peut pas te permettre de gagner des matchs. Alors, c'est très intéressant, et effectivement, mais le talent ne fait pas gagner des matchs. Et s'ils ont envie de gagner des matchs, c'est plutôt par là qu'il faut se développer. Après, on aura beaucoup d'indices sur la stratégie du front office des Hawks, qui franchement, n'est pas non plus, ils sont pas à la rue. Hein. Enfin, je trouve qu'ils ont des choses très intéressantes à développer, et ils sont pas enfin, ils sont pas dans une situation très triste. C'est plutôt joli à voir jouer. Enfin, on s'amuse bien à regarder les Hawks. Alors, ok, ils prennent des valises de points, mais globalement, c'est pas. Il y a des choses intéressantes qui se développent. Donc, ils ne sont pas dans une situation désespérée. Est-ce qu'ils vont tout de suite aller chercher 2-3 vétérans avec le cap space, comme on dit, pour s'armer un peu plus ? Et je pense que, au vu de ce qu'il leur manquait cette saison, ils n'ont pas non plus besoin de grand-chose, en fait, avec des joueurs inexpérimentés. Ils peuvent très vite faire une bascule play-off, au vu de la configuration à l'Est. À l'Ouest, ça aurait été autre chose. Donc, faut voir ce qu'ils vont faire. Ça va nous donner des très bons indices sur eux cet été, selon qui ils recrutent.
Carrément, parce que tu vois, on parle souvent du poste de pivot et de la dévalorisation du poste de pivot et le fait que tu peux trouver des pivots corrects à un prix moindre. Mais quand tu regardes les pivots qui ont eu le plus de minutes cette saison aux Hawks, le pivot qui a eu le plus de minutes, c'est Damian Jones, ton chouchou Ben. Juste après lui, Alex Len, et juste après lui, Bruno Fernando. Est-ce que ces gars-là, ce sont même des mecs de rotation en NBA aujourd'hui?
Tom, j'aime vraiment pas ce que tu fais pour mon petit Damian Jones. Je trouve ça. Two-time NBA champion.
Il a montré quand même. Oui, c'est sûr. Il a montré des choses intéressantes, mais tu vois, c'est pas un pivot titulaire. Tu vois, c'est pas Christian Wood.
C'est même peut-être pas un pivot remplaçant. Ça me fait très mal de le dire ça, mais c'est peut-être pas même un pivot remplaçant. Par rapport aux Hawks, donc du coup, on voit bien que quelques petits ajouts. Alors, c'est peut-être une des bonnes nouvelles parce qu'on va voir dans le groupe des équipes. Je pense que parmi les équipes qu'on va aborder, c'est une de celles qui ont le moins de choses à faire. Ils ont peu de choses à faire pour s'améliorer. Après, moi, ma petite analyse, parce que j'ai quand même certaines analyses sur ces équipes. Pour moi, les Hawks, c'est le cas typique de l'équipe qui s'inspire toujours, et ça fait 10 ans qu'on a ça, du cas OKC en se disant, on peut aligner des jeunes joueurs à fort potentiel, ça va marcher. Sauf qu'en fait, il y a qu'OKC qui a marché sur les 15 dernières années, et que ça, on continue à faire ça. On a parlé de Minnesota. Enfin, bref, plein d'équipes font ça. Il faut se rendre compte que c'est OKC était une anomalie historique, une aberration historique, et que ça ne marchera pas. Il faut des valeurs sûres. Je pense que ça, on peut conclure.
Tu draftes pas 3 MVP de suite facilement.
Oui. Heureusement pour le reste de la ligue, parce que autrement ça poserait certains problèmes. On enchaîne avec deux équipes qui n'ont sûrement pas drafté 3 MVP de suite ces dernières années. On commence par les Pistons de Détroit, cher à Ilias, qu'on salue. Pistons de Détroit, pour commencer l'angle qu'on va aborder dans leur petit bilan, c'est phase 1 de la reconstruction terminée, point d'interrogation. J'ai perdu mon ordre, je vais commencer avec toi, Tom. Est-ce que la phase 1 de la reconstruction des Pistons est terminée, selon toi?
Ah oui, ils ont viré André Drummond. Donc, la phase 1 est terminée. Enfin, l'ère André Drummond, Reggie Jackson, c'est terminé. Donc là, c'est le début, entre guillemets, de l'ère Blake Griffin en solo. Et à voir ce qu'ils font après. Donc, moi, je pense que c'est une équipe qui est sur quand même une bonne voie. C'est-à-dire qu'ils se sont, entre guillemets, débarrassés des joueurs dont ils ne voulaient plus. Et ils sont sur une situation où, non seulement ils se sont débarrassés des joueurs dont ils ne voulaient plus, mais ils ont aussi du cap space pour cette intersaison, pour non seulement retenir des joueurs, en signer de nouveaux, et peut-être servir d'équipe qui va ingérer un mauvais contrat pour récupérer un tour de draft pour les équipes qui recherchent de la flexibilité. Donc pour moi, ils ont tout gagné de ce côté-là, sachant que c'est une équipe qui a réussi à construire de la valeur cette saison. On a vu que Derrick Rose a fait une saison plutôt bonne dans son rôle de sixième homme, et qu'il a été assez courtisé même à la trade deadline. Donc peut-être qu'à la draft, ils peuvent essayer d'en obtenir quelque chose. Brown, l'espèce d'arrière, moi que j'aime beaucoup, assez playmaker, qui a fait une saison plutôt correcte. Christian Wood, que je vous avais vendu en début de saison, qui a fait une bonne saison également, qui va probablement être payé aussi cette saison, et qui a les qualités de l'intérieur moderne que tu veux, même à côté de Blake Griffin, si jamais il reste. Donc moi, je trouve que ils sont en bonne position. Après, reste à voir ce qui va se passer avec leur dernier haut drafté, hein, Sekou Doumbouya. Voir ce qu'il va pouvoir montrer pour la saison prochaine, et même l'arrière de Duke là qui a été blessé.
Luke Kennard
aussi, qui a été longuement blessé cette saison. Donc moi globalement, je trouve que ils sont moins dans la merde que la saison dernière au même moment.
Ah, ce qui est une première victoire.
C'est une première victoire.
Madiane, je sens que ton GPS est activé. On a parlé flexibilité, on a parlé draft, on a parlé échange. Je sens que c'est des mots qui résonnent chez notre destructeur en chef, Madiane. Tom a laissé quelques dossiers en suspens. Doumbouya, Griffin. Je vais te lancer sur ça, Madiane. Qu'est-ce qu'on fait avec... Alors, Doumbouya, on sait bien sûr qu'il n'y aura pas de trade. On va plutôt partir sur Griffin. Est-ce que c'est ça, la phase 2 qu'il faut entamer? C'est se décider sur le cas Griffin?
Mais en fait, je pense qu'ils ne décideront pas de grand-chose, parce que Griffin, en l'état, est intradable. Il va prendre son option et il va avoir 2 ans de contrat. À partir de là, tu as 2 ans de Malik Griffin. Ben, c'est pas grave, faut jouer avec. Justement, ça... Enfin, on se rappelle après les blessures, hein, comme d'hab, on ne sait pas ce que ça peut donner. On se rappelle quand même que quand il les emmène en playoff, il fait une saison, c'est extrêmement solide ce qu'il fait. Hein. Il les porte sur ses épaules avec André Drummond et ils partent en playoff. Donc pour moi, de toute façon, à l'état, il n'a pas de valeur, vu qu'il sort d'une saison quasi blanche. Donc il n'y a pas de valeur, donc il faut le garder, il faut jouer avec. Et voir ce que ça donne. Moi, je trouve qu'ils sont quand même. Enfin, certes, ils ont très vite switché de position. C'est-à-dire que l'an dernier, on les voyait plutôt à la lutte avec Orlando pour les playoffs. On a vu très vite qu'ils étaient out et ils ont très vite changé de braquet. Je pense qu'ils regretteront encore très longtemps l'offre des Hawks pour Drummond. Mais en tout cas, ils ont réussi à changer de braquet et ils sont maintenant partis pour. Reconstruire. Ils ont eu plutôt une bonne surprise avec Doumbouya, mais moi je mettrai encore des pincettes. J'ai quand même des doutes sur ce joueur, malgré le fait qu'il soit français et que j'ai envie qu'il soit extrêmement fort. Il me laisse un arrière-goût amer quand je le vois jouer. Et son comportement n'a pas l'air d'être au top. On a vu qu'il s'était séparé de l'agence Comsport à l'initiative de ses agents. Ce qui quand même laisse des indices un peu inquiétants sur son état d'esprit. Voilà, Christian Wood, bonne surprise. Je pense qu'ils vont se séparer assez vite de Derrick Rose. Je vois pas l'intérêt de le garder. Encore faut-il qu'il y ait preneur. Moi, j'ai vu beaucoup de rumeurs. Ouais. Moi, j'ai vu beaucoup de rumeurs sur Derrick Rose, mais très peu d'offres concrètes. Alors que je pense que la première offre concrète, il partait. Quelle est la valeur réelle de Derrick Rose? Est-ce qu'ils arriveront vraiment à s'en séparer? Ça peut être très intéressant. Je pense que plutôt, il va être buy-out. Je vois mal quelqu'un balancer des assets pour le récupérer. En tout cas, oui, ils ont commencé la reconstruction. Maintenant, je pense qu'il faut du talent. Parce que qui est ton plus grand talent? Ton plus grand futur? C'est coup?
Pour l'instant, hein. Pour l'instant, après, je pense en termes de playmaking, ce serait peut-être Kennard. Mais Kennard, tu vois, ouais. C'est plus le prototype, le role player prototype, quoi. Même s'il a montré pas mal de choses à la création. Mais Kennard, c'est pas un joueur à qui tu vas confier l'initiation offensive de ton équipe. Après, il faudra aussi voir quel Blake Griffin ils auront. Est-ce que c'est le Blake Griffin de la saison dernière? Ou est-ce que c'est le Blake Griffin d'il y a maintenant deux saisons qui était All-NBA, quoi?
Ah oui, clairement. Mais après, c'est ce que je dis, c'est que pour l'instant, il est tradable et que hormis s'il revient au niveau qu'il avait quand il les emmène en playoff, je vois pas qui le prend. Surtout à ce tarif-là et sur 2 ans.
En tout cas, on a vu que c'est une franchise qui a pas peur de perdre la bataille, entre guillemets, la bataille journalistique. S'ils doivent se séparer d'un joueur, peu importe ce qu'ils vont gagner, ils s'en moquent si le retour n'est pas... Tu vois, André Drummond, tout le monde n'aurait pas eu ce qu'il faut pour faire ce qu'ils ont fait et de s'en séparer pour si peu.
Oui.
Et eux, ils ont montré qu'ils sont capables de le faire.
Mmh. C'est assez intéressant d'ailleurs qu'on ait abordé les cas Atlanta-Détroit l'un après l'autre parce qu'on a l'impression qu'on est quand même sur deux situations opposées. D'un côté, on a la pièce centrale Trae Young ou la pièce centrale selon le front office Trae Young, mais il manque autour ce qu'il faut les pièces complémentaires et du côté des Pistons on a l'impression que la plupart des pièces complémentaires sont déjà là mais il manque peut-être le futur grand joueur de cette équipe donc c'est ça qu'il faut suivre et je rejoins Tom sur le fait et c'est quelque chose de très fort déjà à faire de pas se soucier du retour médiatique et que peu d'équipes font parce qu'en réalité c'est surtout pour un front office c'est peut-être limiter un peu sa durée de vie que de faire ça parce que par exemple pour un propriétaire ça peut être quelque chose de voir que ce que fait le front office est complètement critiqué et dézingué dans les médias ça peut avoir un effet négatif. Alors on a été, je trouve, pour l'instant, malgré qu'on parle des cancres, assez gentil. J'espère que ça va changer avec les Knicks. New York Knicks, qui, un peu sans trop de surprise, se retrouve encore une fois parmi les dernières équipes du classement. Alors j'avais mis une première question pour cette équipe, et vous m'avez dit, les gars, ce serait plus intéressant de tourner ça sur le choix du coach, parce que le choix du coach va dire beaucoup sur ce que va faire cette équipe. Madiane, je vais retourner vers toi parce que on parle des Knicks, donc je suis un petit peu obligé de te donner la parole. le choix du coach, pour toi, ça va donner un... ça va donner une direction à Senix. C'est-à-dire, selon qu'on part, bah, on va donner les noms, sur un Atkinson ou sur un Thibodeau, ça va déjà dire beaucoup de ce que ont dans l'idée les Knicks.
Tout à fait, tout à fait. Ça va vraiment dire beaucoup de choses sur dans quelle direction ils vont. Je ne cache pas le fait que pour moi, Thibodeau est une excellente mauvaise idée. Que je pense que ce n'est pas ce qu'il leur faut à date. Après, sinon, bah, ils ont toujours Mike Miller qui pourrait peut-être...
qui a fait un boulot intéressant. Hein.
Ouais, qui pourrait peut-être rester là l'an prochain. En tout cas, il fait partie, avec Atkinson, de ce trio de coachs sentis. Après, les autres noms cités, c'est bon, bah, Javon Gundy, on le cite tout le temps, mais il n'aura jamais le poste. Mark Jackson, Mike Woodson et John Calipari. Bon... il y a pas mal de mauvaises idées dans le tas. En tout cas, moi, Atkinson, ce serait peut-être celui qui a ma préférence. Et je pense que c'est un peu évident parce qu'il a quand même construit quelque chose d'intéressant avec une certaine mentalité du côté des Nets. Après, comme dit, il est parti des Nets, mais un peu d'un commun accord parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la nouvelle mentalité de cette équipe n'est pas conforme à celle de ce coach. Mais je pense qu'il peut apporter des choses extrêmement intéressantes à cette équipe. Maintenant, c'est les Knicks. Et comme on dit, comment ne pas faire un truc décevant à l'intersaison? En fait, je pense qu'ils ne sont pas de très bons choix à cette intersaison. Qu'est-ce que tu fais de Randall? Enfin, il y a plein de questions. Tu n'as toujours pas un gars capable de porter la balle dans cette équipe. Moi, je pense que c'est la priorité numéro 1. Avoir un gars capable de porter la balle pendant 30-35 minutes dans cette équipe, ce serait déjà une énorme avancée. Parce qu'actuellement...
Il y a Elfrid Payton, non ?
Ouais, ouais. Très, très intéressant, Elfrid Payton. Oui, oui. en tout cas, là, il va falloir qu'il résolve beaucoup de problèmes dans ce roster qui est pas construit du tout. C'est n'importe quoi, ce qu'ils ont. Donc, va falloir construire un roster. Et je pense que ça commence par le coach. On prend un coach. On voit avec lui ce qu'il souhaite. Et par pitié, pas Thibodeau avec Elfrid Payton. Parce que Payton, 40 minutes par match, non.
Tom, ton avis sur la situation des Knicks qui, au moins, cette intersaison, ne pourront pas... rêver de grands noms de la free agency au vu des noms disponibles. C'est une première victoire déjà.
C'est ça. Moi, je suis assez d'accord avec Madiane où, dans le sens où le coach qu'ils vont choisir va définir leur stratégie. Si par exemple, tu pars sur un coach comme Tom Thibodeau, tu sais que les gars, ils récupèrent Tom Thibodeau pour jouer la free agency 2021. Ça peut pas être possible autrement. Et à partir de là, tu quittes du développement des autres joueurs. Donc, quid du développement de Knox, Frank, Dennis Smith, si tant est qu'on puisse dire qu'un jour, ce joueur puisse se développer, et R.J. Barrett. Quid de ces gars-là et Mitchell Robinson aussi. Parce qu'on connaît Thibodeau, nanani, les jeunes, nanana, les fautes et tout ça. On connaît, c'est typiquement le mec à faire jouer Randall et Gibson.
Mais il nous a déjà imposé du Gibson, qui était bon à Minnesota, hein, mais qui avait un rôle peut-être un petit peu trop grand par rapport à son niveau.
C'est ça. Donc du coup, et puis, après, si tu pars sur quelqu'un comme voilà, Miller ou Atkinson, là, tu peux te dire, OK, on va plus, entre guillemets, prioriser les jeunes et peut-être pas aller sur une reconstruction très rapide via la Free Agency, mais essayer de développer les talents qu'on a déjà, si tant est qu'ils sont encore développables, et de voir comment... Quels sont les joueurs qui peuvent faire partir de la future bonne équipe des Knicks, quoi. Donc, par exemple, tu vois, des joueurs comme, même des joueurs qui vont avoir leur contrat finissant, là, Dodson, qui a apporté pas mal de choses, enfin, sur le côté trendy, sur le poste 2, qui est plutôt intéressant, Trio, qui a pas forcément beaucoup joué cette saison, mais qui, l'année dernière, avait montré pas mal de choses sur le maillot des Knicks. Donc ces joueurs-là, est-ce qu'ils vont les garder? Même Artless qu'il faudrait prolonger, puisque Artless, c'est un ailier de niveau entre guillemets titulaire NBA, quoi. Ce serait peut-être, bon, Artless, c'est peut-être aujourd'hui l'ailier moyen, on dira. Ben.
Ouais.
Bon, Artless. Majestic de l'aile, Le Jeff Tick de l'aile.
Ah, tu vas. Oh. Ah, tu m'as donné une piste de réflexion pour mes prochaines semaines. Merci, Tom. Je te réponds en octobre. Merci.
Ok. Bah, tu vois, c'est limite. C'est un gars, si tu as Morakles dans ton équipe, tu as peut-être des bonnes équipes qui seraient tentées de vouloir le récupérer pour te donner quelque chose pour le récupérer, quoi. Donc, du coup, c'est un joueur qui peut avoir un rôle dans une bonne équipe vu qu'il était titulaire dans une équipe qui a fait la finale de conférence l'an dernier, quoi. Donc, à l'Ouest. Donc, typiquement, tu vois, ce type de joueurs-là, ce sont des joueurs que tu peux faire grandir, entre guillemets, qui sont plutôt jeunes. Et sans parler de Mitchell Robinson qui, avec RJ Barrett, ont le plus gros potentiel pour moi dans cette équipe-là. Donc, du coup, ce serait plutôt sur eux et trouver des joueurs qui complémentent leur style de jeu plutôt qu'aller chercher des joueurs comme ils ont fait l'intersaison précédente. Donc, moi, je trouve que le choix du coach va être hyper important. Et on parle beaucoup de Thibodeau par rapport au fait que, voilà, il a été client de CA Sport, qui est l'ancienne agence de Leon Rose, quoi. Donc, avoir, entre guillemets, on connaît l'influence des agents dans ce milieu-là, Ben, donc à voir ce qu'ils font.
Juste une chose pour finir rapidement ce dossier Knicks. Vous avez parlé du fait que si on ramène un Thibodeau, c'est plus pour une approche free agency. Est-ce que ça marche vraiment comme ça? Est-ce qu'on pense... Alors, est-ce que vous... Ça va être les constructions de phrases vont être un peu difficiles là, mais est-ce que vous pensez que c'est la mentalité des Knicks, c'est le plan à l'intérieur de la tête des dirigeants des Knicks de se dire si on parie sur Thibodeau, c'est la free agency, ou alors vous pensez vraiment qu'en 2021, donc, Thibodeau aurait un impact sur une free agency? Parce que moi, je mets dans la peau, c'est assez difficile comme exercice d'un potentiel free agent, j'ai pas l'impression que Thibodeau, ça soit un vrai argument qui puisse me faire choisir les Knicks.
Non, mais c'est pour ça que ce serait un échec s'ils prennent cette stratégie. C'est une stratégie où on tente un truc un peu old school avec un coach un peu référencé, et on se dit on va essayer de gagner des matchs l'an prochain et puis d'attirer des free agents. Ça ne marchera pas, évidemment que ça ne marchera pas, mais c'est l'option qu'ils prendront. Enfin, qu'ils peuvent prendre, quoi. S'ils prennent cette option, c'est ça qu'ils vont se dire, et ça ne va pas marcher, et du coup, pareil, ils vont refaire une intersaison pour rien. C'est pour ça que ce sera très... Il faut rester attentif, parce que s'ils prennent un choix Atkinson, ça va laisser des indices sur le fait que peut-être qu'ils changent de braquet. Et je dis peut-être, parce qu'on ne sait jamais avec cette équipe encore... C'est extrêmement dur de... En fait, ils n'arrivent pas à développer un vrai projet de jeu autour d'un prospect. Allez, c'est parti, mettons RJ Barrett, ok, t'es le prospect, bon, on va t'entourer de vétérans, on va essayer de gagner quelques matchs et de développer du jeu, et puis après, ben, si ça se développe là, on ira vers des free agents. C'est pas le sens. Eux, ils veulent soit un prospect générationnel tel Zion, soit ils veulent signer Kevin Durant et Kyrie Irving. Donc c'est toujours difficile, New York, par rapport à ça. Donc oui, Tom Thibodeau, c'est une mauvaise idée, du coup.
Ok, ok.
Moi, je pense que c'est surtout une histoire de signal, en fait. Dans le sens où si tu signes Tom Thibodeau, connaissant Tom Thibodeau, tu donnes un signal au vétéran que, voilà, lui, il vient là pour essayer de faire gagner. Donc, tu vas t'inscrire dans une logique de vouloir gagner tout de suite. Là où si, par exemple, tu signes Atkinson, peut-être que des joueurs confirmés ne voulons pas aller dans ce projet-là, dans le sens où ils savent que voilà, tu pars sur un projet plus long où il faudra développer des joueurs, et peut-être qu'au moment où l'équipe sera assez bonne, tu ne feras plus partie des plans de l'équipe. Hashtag Greg Monroe.
Et bon, on va conclure. Je pense que quand on arrive au hashtag Greg Monroe, il est temps d'enchaîner sur l'équipe d'après. On reste à l'Est. Les Chicago Bulls, alors il y a eu un podcast récent sur eux avec Adrien Consalut et Tom ici présent, donc on va être assez rapide sur Chicago, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été abordés dans ce podcast. Simple question, messieurs, en quelques mots, est-ce qu'il faut encore à ce groupe de jeunes joueurs, hein, voilà, composé principalement des Zach LaVine, des Lauri Markkanen, etc., est-ce qu'il faut lui accorder une année supplémentaire, ou alors si une offre arrive... aux alentours de la draft, est-ce qu'il faut considérer une potentielle explosion de ce noyau-là?
Ah, moi, je leur laisserais bien une année de plus. Vraiment. Vraiment, enfin, moi, je trouve que, par exemple, Coby White, c'est extrêmement intéressant. Ils ont des choses, ils sont pas n'y a pas d'urgence, en fait, à tout casser. Markkanen a été sur une saison un poil plus décevante que celle à laquelle on aurait pu s'attendre, mais d'un autre côté, t'as un Zach Lavine qui montre quand même de très belles choses dans cette équipe. Moi, je trouve qu'il faut que tu laisses un an, parce que si t'as un Wendell Carter, un Kobe White, que ça commence un peu à cliquer avec Markkanen et Lavine, ça peut être extrêmement intéressant. Après, ça a été un peu difficile cette année pour Satoranski. Moi, j'aurais attendu un peu plus de choses d'autoporteur top 15 shooter. Après, il n'a pas énormément joué. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut leur laisser du temps. T'es pas pressé. Je pense pas qu'il faut se presser. Moi, je trouve que justement, est-ce que si tu perds patience maintenant, tu passes à côté du retour en playoff? Moi, je pense qu'ils peuvent vraiment y arriver et il leur faut pas grand-chose. Je pense qu'avec quelques signatures un peu intelligentes cet été, ils peuvent très vite se mettre dans une bonne position.
Tom, est-ce que tu rejoins Madiane une année de plus et une équipe qui peut potentiellement arracher les playoffs? Je vais me faire l'avocat du diable. J'ai l'impression que ce discours avec Chicago, je l'entends souvent. J'entends souvent depuis quelques années, ah, mais il faut leur laisser une chance parce qu'ils vont s'approcher des playoffs. Et alors, il y a de la malchance, il y a des blessures, il y a peut-être certains choix de free agency pas toujours intelligents, mais ils sont toujours un petit peu courts à la fin.
Moi, je pense qu'il faut donner une chance à ce groupe-là avec un autre coach. On a vu que Karnišovas, il est arrivé, il a la volonté de changer un petit peu les choses. Donc, je pense que prendre des décisions sur l'année qui s'est passée, vu qu'il y a eu pas mal de problèmes de blessures, pas mal de joueurs indisponibles, donc t'as jamais pu voir l'équipe performer au niveau où tu espérais qu'elle serait. Je me souviens qu'en début de saison, on avait un débat Atlanta ou Chicago, par exemple, pour la 8e place en playoff. Et clairement, dans toute l'équipe, c'était plutôt Chicago qui l'emportait parce qu'il y avait plus de certitude et plus de joueurs, entre guillemets, référencés pour une bonne rotation NBA. Donc moi, je pense que c'est une équipe qui doit quand même se laisser au moins une demi-saison pour pouvoir réévaluer les joueurs dans un autre contexte, c'est-à-dire avec un autre coach, et ensuite prendre les décisions qui s'imposent, à savoir sur Markkanen, sur Porter Junior, top 15 shooter, sur Zach LaVine et consorts. Et après, moi, j'espère que cette équipe-là va garder Chris Dunn car il a fait une très bonne saison défensive.
Ah, Tom, l'amour de Chris Dunn pour l'amour de Tom pour Chris Dunn, c'est mieux dans ce sens-là. Un des éléments paranormaux de ce podcast qui ne s'expliquera jamais. On enchaîne, du coup, on vous invite à, encore une fois, à l'écouter le podcast consacré aux Bulls récemment enregistré par Adrien et Tom. On finit par l'équipe. Alors, j'ai pas peur de le dire, selon moi, je pense que c'est l'équipe la plus surprenante avec OKC. Le fait est que eux, sachant qu'ils ont, on va dire, dans les power ranking NBA, ils sont passés d'une prédiction 30 à un classement à 22. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais c'est quand même une équipe qu'on a lancée dans les choux. Et pourtant, ils ont été sérieux. Ce sont les Charlotte Hornets. Madiane, notre ligne directrice pour eux, c'est équipe moins mauvaise que prévu. Bah, grâce à qui? Qui peut-on sortir de ce collectif pour dire, ok, c'est grâce à ces joueurs-là qu'on a été compétitif?
Ah bah clairement, on a Devonte Graham, on a Miles Bridges, on a eu quand même des bonnes surprises dans l'effectif, et clairement ils ont été plus excitants à jouer. Terry Rozier, moi je l'avais pick au MIP en début de saison. Bon, il le fera pas, clairement pas, mais il a apporté ce qu'on espérait qu'il apporte. C'est pas un excellent joueur, mais ça tient tout à fait la route. C'est peut-être un peu surpayé, on peut débattre là-dessus, mais ça tient extrêmement bien la route. Et voilà, donc ils ont une équipe un peu cohérente avec du shoot, ça jouait bien. Et clairement, moi j'ai l'impression que le groupe vit bien. C'était vraiment une équipe agréable à avoir joué. Donc clairement, chacun a apporté ce qu'il devait apporter. Il n'y a personne qui a été, disons, brillant. Ils sont clairement pas de All-Star. Ils sont pas de joueurs flashy ou de vrais, disons, première option indiscutable. Mais ça a bien joué et il y a quand même des choses intéressantes qui se sont développées autour de cette équipe. Ce qui est très intéressant, c'est que après la saison prochaine, là, ils vont avoir du cap et beaucoup de décisions à prendre parce que Batum part, enfin il va prendre son option à 27 millions. Biombo part cette saison. On va avoir de l'espace. Cody Zeller part à la fin de la saison prochaine. Pareil, c'est 15 millions. Après, il y aura peut-être les re-signatures de Malik Monk. Il faudra voir ce qu'ils vont faire à la fin de cette saison avec Hernan Gomez. Mais clairement, ils vont avoir du cap en 2021. Là, le but, c'est de garder ta base stable et d'essayer de développer du jeu sans tes contrats finissants, c'est-à-dire sans forcément compter énormément sur un Batum. Je pense que Batum, s'il termine la saison avec les Hornets, ce sera fort étonnant. Enfin, il pourrait très bien le laisser partir dans une autre équipe très très vite en janvier, et quitte à le payer, parce que de toute façon... De toute façon,
un buyout,
je pense...
un truc comme ça.
Voilà, un buyout, il le paye et il le laisse partir ailleurs. Comme ça, eux, ils peuvent vraiment se concentrer pour développer d'autres joueurs. Clairement, c'est pas intéressant de faire jouer Batum l'an prochain. Absolument pas. Donc voilà, moi je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'options intéressantes que ce qu'on aurait pu anticiper en début d'année, parce qu'ils vont avoir du cap, ça joue bien. À voir ce qu'ils font sur cette intersaison. Ils peuvent quand même faire une ou deux signatures plutôt sympas. Donc, c'est clairement beaucoup plus positif que prévu. Et clairement, on ne s'attendait pas à un tel niveau de jeu du côté des Hornets.
Tom, du coup, côté Hornets, après ce très bel exposé de Madiane, qu'est-ce qu'on peut dire de cette saison qui aurait mérité, d'après moi, c'est ce que j'avais mis dans une des premières versions de nos questions, les encouragements du conseil de classe, dira-t-on.
Alors moi je dirais, on en parle très peu, mais James Borrego, qui a fait un boulot vraiment intéressant cette saison. Enfin, tu vois, Terry Rozier qui devient un peu un autre joueur. Hein. Là où à Boston, il avait énormément de responsabilités sur tout ce qui était playmaking, là, il avait un rôle essentiellement de finisseur d'action. Donc, moins de chances pour lui de faire des erreurs, quoi. Puisque la gonfle était plutôt bien gérée par Graham. Donc, moi, je trouve que, Borrego, il a montré pas mal de choses intéressantes cette saison avec cette équipe-là. Et c'est très encourageant de savoir qu'ils ont au moins un bon coach, déjà. Enfin, du moins, ils ont pas un coach qui sous-performe le talent qu'il a dans son effectif. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Autre personne, je dirais Graham, comme tu l'as cité, mais aussi le rookie PJ Washington,
oui,
qui a montré pas mal de choses, notamment dans un rôle peut-être de stretch fort, entre guillemets, de d'ailier fort qui s'écarte, qui non seulement donne des éléments de spacing, parce que il peut sanctionner, il a un volume assez intéressant, mais qui arrive à faire autre chose que tirer, par exemple, quand il a la balle en main et quand il y a un close-out, et du coup qui permet à des joueurs comme Terry Rozier et Devontae Graham de plus facilement pénétrer. Donc lui aussi, je pense que c'est un joueur qui peut être un peu dans les bons points. Et après, enfin, comme tu les as mentionnés, Bridges qui a montré quelque chose d'intéressant, même si je trouve qu'aujourd'hui Miles Bridges c'est pas forcément un titulaire NBA, c'est plutôt un joueur de rotation aujourd'hui. Et après les Martin, plutôt vraiment en bout de banc, mais pas grand chose à dire, hein, tu vois, de ce côté là après sinon un joueur où on peut être peut-être un peu déçu que l'herbe lui soit coupée sous le pied un peu de cette saison, ce serait plutôt ton petit chouchou, encore une fois, malheureusement, Ben Monk, par son nom, pas forcément par son jeu, mais par son nom, Malik Monk, avec des soucis, s'est fait attraper par la patrouille pour le dopage, alors qu'il commençait du coup à sortir la tête de l'eau. Et aussi déception, mais personnelle cette fois-ci, pour Dwayne Bacon, qui n'était même pas présent pour sa soirée Bubblehead Night, puisqu'il a été assigné en G-League le soir de sa soirée Bubblehead.
Voilà, on rentre dans des analyses vraiment de la technocratie d'un cadeau. Je vous avais prévenu à la Bubblehead Night. Petite dernière question rapidement sur Charlotte. On a parlé de beaucoup de ces équipes en affirmant que, ok, elles ont été mauvaises cette année, mais elles pourront un peu toutes passer un cap l'année prochaine. En tout cas, on l'espère. Parmi toutes ces équipes, est-ce que Charlotte, c'est pas non plus celle pour laquelle on voit le moins, enfin, ce cap être le moins grand, ou même ne pas passer de cap, tout simplement. Est-ce que Charlotte n'est pas une équipe qui pourrait stagner un peu par rapport à,
voire régresser. Oui. Moi, je pense que c'est une équipe qui va régresser, mais vas-y, je te laisse, Madiane, vas-y.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que peut-être pas régresser forcément, mais moi je pense que les autres pourront être plus forts que s'ils aidaient, parce qu'il faut dire quand même qu'au tour de Charlotte, ça n'a pas été très 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 fort, que beaucoup d'équipes ont eu pas mal de soucis, et sans pour autant les voir régresser, moi je vois les autres être plus forts, et du coup leur, ça va leur poser beaucoup plus de problèmes. Mais comme dit, c'est pas l'an prochain moi que je viserai clairement, ce serait plutôt l'année d'après.
Comme tout le monde quoi. Donc du coup, comme t'es Charlotte, tu seras en galère. Si tout le monde vise 2021 et qu'au final, il y a très peu de joueurs en 2021, ben t'auras les restes quoi, si t'es Charlotte. Donc est-ce que c'est pas mieux de miser déjà dès cette saison pour faire des affaires au moment où personne ne veut en faire?
Ah, bah alors faire des affaires ou potentiellement, du coup, c'est ce que je disais, est-ce qu'en 2021, avec leur cap, ils se positionnent pas en équipe qui récupère un peu toute la toxicité de tout le reste de la ligne pour bâtir la suite? Ça peut être aussi une option très intéressante.
Après, ça ferait beaucoup d'années dans les bas-fonds.
Ouais, ouais. Après, sachant que c'est une équipe, moi je pense que c'est une équipe qui est vraiment marquée par ses reconstructions, hein, parce que on parle d'une équipe qui avait le pire bilan de la ligue et qui a raté Anthony Davis, qui s'est retrouvé avec Michael Carter-Williams, qui s'est retrouvé avec MKG, pardon. Donc du coup je pense que c'est une équipe qui doit être quand même assez traumatisée par la reconstruction ratée, la reconstruction précédente ratée quand même, hein. Puisque quand tu tankes avec Paul Silas et tu obtiens le pire bilan en faisant jouer Byron Mullens en titulaire et tout ça, et enfin pour la première saison de Kemba, tu as le pire bilan de la ligue et tu te retrouves avec MKG qui finalement dans sa carrière n'aura jamais été plus qu'un role player correct entre guillemets, ben ça fait mal et t'as pas forcément envie de reconstruire tout de suite, hein. C'est une équipe limite, ses meilleures années ça a été la partie où il y avait Al Jefferson et Kemba Walker quoi, où c'est la saison qui les a fait émerger. Donc je sais pas si je pense que c'est plus une équipe qui sera un peu peut-être à la Indiana, ou à ne pas forcément vouloir aller dans les bas fonds et simplement avoir un produit regardable entre guillemets.
Ouais, ça justifie quand on sait que c'est une des équipes qui historiquement perd de l'argent et qui bénéficie du système NBA pour maintenir ses comptes à flot. Eh bien, merci messieurs pour ce bilan de ces 8 équipes cancre. J'ai retenu une chose, c'est que Tom s'est donné pour mission de citer tous mes joueurs, tous mes chouchous, c'est-à-dire qu'en un épisode, on a eu Damian Jones, Malik Monk et Michael Kidd-Gilchrist. Manquait plus que Dwight Howard et
Tu viens de le faire.
Oui, et je viens de le faire. Et tout était complet. En tout cas, on vous invite, si vous êtes fan de ces équipes, à garder espoir quand même. Et surtout à ronger votre frein, parce que on l'avait dit dans l'épisode de la semaine dernière, pour vous, ça va faire 9 mois presque sans match de votre équipe, ce qui est quand même une éternité à l'échelle NBA, il faut le dire. On vous invite aussi à réagir sur les réseaux sociaux par rapport à ce podcast. Je m'attendais, et on en avait parlé dans notre discussion interne au site, je m'attendais à plus de découpage. On a été, je trouve, vous avez été, parce que moi j'ai très peu parlé, vous avez été plutôt sympathique. Donc peut-être que la pause NBA a rendu notre Madiane nationale un peu moins ou peut-être parce qu'on n'avait pas les Spurs dans le lot aussi. C'est peut-être une autre.
Alors moi j'ai failli proposer de les inclure vu qu'ils vont jouer absolument rien à Orlando.
Ah je te retrouve Madiane sur la fin de cet épisode. Donc comme j'ai dit, réseaux sociaux, Twitter principalement, et puis plateforme où vous nous écoutez. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 113 du podcast, et d'ici là on vous souhaite une bonne semaine. Salut.
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 Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.